L'Éden de Satan numéro 48. La séduction religieuse. Le 29 mai 2022. Brian Kozurek. Pasteur. Restons debout alors que nous ouvrons la parole de Dieu et prenons notre texte dans 2 Corinthiens 4.3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 4 Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'il n'émisse pas briller sur eux la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Prions. Ce matin, nous allons entendre frère Branham prendre l'épée de la parole et couper très profondément. C'est pourquoi, avant de commencer, je veux que vous compreniez que je n'ai pas à me plaindre d'une personne en particulier ou d'une église. Je vais juste exposer ce que notre prophète nous dit alors qu'il commence à prendre l'épée de la parole et commence à détruire l'ennemi de Dieu, qui est Satan, ainsi que ses méthodes pour produire l'incrédulité parmi les membres d'église. Rappelez-vous, ce sermon de frère Branham a pour titre l'Éden de Satan dans un but, et il espérait que le titre de ce sermon attirerait l'attention des gens à entendre ce que le Seigneur a placé sur son cœur pour nous révéler les méthodes de Satan pour susciter l'incrédulité en ce dernier jour et canaliser l'adoration des gens vers lui-même. Maintenant, reprenons là où nous nous sommes arrêtés dans le sermon de frère Branham, l'Éden de Satan, et commençons à lire au paragraphe 17. Le Dieu de ce monde aujourd'hui, la personne adorée de ce monde aujourd'hui, c'est Satan, et les gens ignorent qu'ils adorent Satan. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de relire 2 Corinthiens 4 pour vous montrer que ce n'est pas une pensée originale de William Branham, mais qu'il fait simplement écho à ce que l'apôtre Paul nous a enseigné dans 2 Corinthiens 4.3 « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » 4 Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils n'émissent pas briller sur eux la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Remarquez que l'apôtre Paul a appelé Satan le Dieu de ce monde, et nous savons que le mot Dieu signifie un objet d'adoration. Par conséquent, ce que l'apôtre Paul enseigne ici, c'est que le Dieu de ce monde est la personne adorée de ce monde, et celui qui est l'objet de cette adoration a aveuglé l'intelligence de ceux qui n'y croient pas, leur faisant croire qu'ils croient, et que certainement ils adorent Dieu à travers leur église sur laquelle il exerce un contrôle absolu. Maintenant, ce n'est pas exclusivement une stratégie de Satan pour le temps de la fin, car il a été précipité du ciel pour avoir fait exactement la même chose au ciel. Il est un narcissique et dès le début il a essayé de canaliser l'adoration de Dieu vers sa propre personne. Job, le serviteur de Dieu, 23 février 55 p. 12 dès que Satan. Vous connaissez l'ancien, l'argument Esther. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas pu contourner tout cela, et n'aimait pas avoir tout cela? Mais Dieu a mis Satan presque sur un même pied d'égalité que lui-même. Satan a pris les choses de Dieu et les a perverties en des mauvaises pensées. Et par là, il a commencé à pervertir les choses en mal acquis au lieu du bien. Et Dieu, dès que la première chose a été faite, de son grand coffre et trésor d'amour, il a aussitôt conçu un plan de rédemption. Il n'a pas eu à s'asseoir pour y réfléchir à fond, pour savoir comment ce serait. Il était Dieu, infini. Il savait comment ce serait. Il l'avait dans son grand cœur, la façon dont il allait réaliser tout cela. Et puis s'il a connu d'avance l'Église, il a connu d'avance Christ, il a connu d'avance le plan. Et s'il a tout mis en ordre, et la façon dont le monde tourne. Et vous, étant mort à vous-même, mort en Christ et vivant, après être mort à vous-même, vivant en Christ, Dieu fait concourir toutes choses ensemble pour le bien de ceux qu'il aime, et comment pouvez-vous perdre? Vous n'y pouvez tout simplement pas perdre. Il n'y a aucun moyen de perdre. La puissance transformatrice de Dieu 11 septembre 65 p. 103 est bien. Je ferai de toi l'évêque de toute la terre. J'ai régné sur cela. Si tu veux juste m'adorer, viens rejoindre mon groupe. Je ferai de toi le dirigeant. Je vais me retirer, te laisser monter. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il Esther écrit, tu adoreras Dieu, la parole, et lui seul tu serviras. Puis un jour, sur ce grand personnage, j'aimerais m'attarder un moment. Mais un jour, l'esprit Esther encore descendu sur lui, parce qu'il y avait une parole qui avait été écrite à son sujet, de Dieu, par le prophète, et il fut conduit à l'abattoir comme un agneau. Et l'esprit Esther descendu sur lui, et l'a conduit, et l'envoya à la croix du calvaire. Là, il Esther mort. Et tout ce qui a été dit de lui, de sa mort, a été accompli pour apporter les lumières et la vie à toute la postérité prédestinée de Dieu qui était sur la terre. Il a apporté la façon de le faire. Voici la semence. L'Esprit apporte la vie, transformant les fils et les filles de Dieu du monde, dans ce sombre chaos, en des fils et des filles de Dieu. Le temps de la moisson 12 décembre 64 p. 20 maintenant. À vous qui voudriez ouvrir, habituellement vous aimez lire après un ministre quand il va lire, pour savoir d'où il parle, si vous avez vos Bibles, et voulez bien ouvrir à Saint Matthieu au 4e chapitre. Et maintenant, je vais donner mon texte juste avant de parler. Plus ou moins, je veux l'enseigner tel quel, alors que j'en parle au fur et à mesure. Et ça, j'ai intitulé sans savoir pourquoi, je n'ai sais pas pourquoi, je l'ai intitulé, le temps de la moisson. Et nous allons prendre une écriture à lire pour fonder cette pensée, pour tirer de là le contexte du texte. Nous allons lire Saint Matthieu chapitre 4. Une partie de celui-ci. C'est Esther dans les tentations de Jésus. Après avoir été rempli du Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert. Maintenant, quand Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, et quand il jeûnait 40 jours et 40 nuits, il fut par la suite affamé. Et quand le tentateur vint à lui, il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Maintenant, observez le modèle des tentations de Satan. Il travaille d'abord sur les lois naturelles de l'autodétermination, qui Esther la survie, et Jésus était affamé. Et il voit que Jésus vient de terminer son jeûne de 40 jours et 40 nuits, et qu'il avait extrêmement faim. Alors, le tentateur, Satan, tente Jésus d'utiliser la parole. Où dirons-nous? Le troisième puits qui Esther la parole créatrice, pour créer du pain pour lui-même. Et bien sûr, Jésus le repousse avec la parole de Dieu. Jésus répondit, il Esther écrit, l'homme n'y vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Maintenant, réalisant que Jésus s'Esther placé derrière la parole de Dieu pour ses défenses, Satan à ce stade décide d'utiliser lui-même la parole de Dieu pour essayer de tenter Jésus d'utiliser ses pouvoirs créatifs du troisième puits de la parole parlée. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il Esther écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied n'ait heurté contre une pierre. Bien sûr, il cite psaume 91.9-12, car tu as fait de l'Éternel, qui Esther mon refuge, même du Très-Haut, ton habitation, dont Jésus avait montré à Satan que sa fortification était derrière la parole de Dieu lors de la dernière tentation, 10 Aucun malheur ennemi t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. 11 Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. 12 Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied n'ait heurté contre une pierre. Mais cela n'a pas influencé Jésus d'Aïota, car il était retourné directement à la parole afin de diviser correctement la parole en réponse à la tentation de Satan. Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu n'es mis ton trapoint le Seigneur, ton Dieu. » Mais Satan n'avait pas encore fini, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. » Car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Remarquez que Jésus était tenace avec la parole de Dieu et a combattu Satan en se basant sur la parole. Mais cet épisode des Écritures nous donne un aperçu du modèle de Satan pour détourner les enfants de Dieu de la protection de la parole de Dieu. Et ce n'était pas la première fois que Satan utilisait la parole de Dieu pour essayer d'amener l'adoration sur sa propre personne. Et c'est ce dont nous discuterons ce matin alors que nous poursuivons avec ce que frère Branham a dit dans ce sermon l'Éden de Satan. Mais laissez-moi d'abord vous lire dans son sermon « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu » 1er juillet 62 p. 34 Alors quand Dieu, la première bataille qui n'ait jamais été livrée n'a pas été livrée sur la terre, elle a été livrée au ciel, Michel et ses anges contre Lucifer. Et ils ont été précipités du ciel. Et puis cette grande armée du diable et tous ses démons sont tombés sur la terre, et Dieu savait qu'il allait y avoir une bataille. Je crois qu'il savait dès le début tout ce qui serait. Si Dieu est infini, il connaissait chaque puce qui serait sur la terre, chaque moucheron, combien de fois il battrait de l'œil, et combien de suites il ferait tous ensemble. Il est infini. Apocalypse 12.1 Un grand signe parut dans le ciel, une femme, et souvenez-vous qu'une femme, c'est un symbole. Elle typifie toujours l'Église. Enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Les étoiles représentent les fils. Vous souvenez-vous du rêve de Joseph où les étoiles se sont prosternées devant lui? Et quand il l'a raconté, ses frères se sont mis en colère parce qu'ils ont dit, loin de nous, de nous prosterner devant notre petit frère qui piaille et couine encore. L'Éden de Satan 2:9.08.65p.35 Nous lirons dans Ésaïe 14. Et regardez ce que ce gars fait, Ésaïe 14. Commencez par le 12e verset. Comme tu es tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin. Comme tu es abattu au sol, toi qui as affaibli les nations. Car tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Ce sont les fils, étoiles de Dieu, et je m'assoirai aussi sur la montagne de l'assemblée, sur les côtés du nord, je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai comme le Très-Haut. Le Dieu de cet âge mauvais 1er août 65 m 41 remarqué, Satan n'a pas été appelé le Dieu d'aucun autre âge que de cet âge-ci. C'était son ambition d'être comme Dieu dès le début. Lisons cela. Nous allons juste prendre notre temps. Revenons en arrière. Voyons voir. Je l'ai fait écrire. Ésaïe 14. Revenons ici à Ésaïe 14 juste une minute et voyons ce que Dieu a dit le Dieu, ce que Satan a fait. Ésaïe 14.12 et 14. Remarquez. Comme tu es tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore. Comme tu as été jeté à terre, ce qui a affaibli les nations. Car tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, les fils de Dieu, maintenant. Et je m'assoirai aussi sur la montagne de l'Assemblée, sur les côtés du Nord, c'était l'ambition de Satan d'être adoré comme Dieu. Il prit deux tiers, les deux tiers des étoiles du ciel, s'éleva au-dessus de ces étoiles, leur prêcha et séduisit deux tiers d'elles. Vous le voyez? D'accord. Remarquez, c'était son ambition. Et maintenant, il extirperait avec son épouse soigneusement sélectionnée et éduquée par ses propres connaissances, vous voyez? Toute peinte dans sa séduction de grands bâtiments, et de grandes dénominations, et de peinture de connaissances et de théologie, et intelligente, intellectuelle et éduquée, pour séduire le monde entier et devenir un dieu, c'est-à-dire ce qu'il a fait. Tout se dirige vers la personne de l'Antéchrist, qui est déjà couronné vicaire de Dieu par son épouse scientifique aimant le monde, tout habillée en pompe de l'éducation intellectuelle et religieuse. Elle est rendue religieuse comme lui, et par sa propre interprétation de la parole de Dieu, comme il a fait Ève, et comme son fils Cain a fait. Apocalypse 12.2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Maintenant, ce n'était pas une queue comme celle d'un dragon, parce que c'était juste un symbole de plus. Cas sur les Hébreux 3e partie COD 6 octobre 57 p. 27 maintenant. Dans l'Apocalypse. Le 12e chapitre. Il donne une image de la femme debout. La lune à sa tête et le soleil à sa tête et la lune sous ses pieds. Et le dragon rouge se leva pour dévorer l'enfant dès sa naissance. Et il prit sa queue et attira un tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. L'avez-vous remarqué? Maintenant, cela ne signifie pas que Satan a une longue queue qu'il accrochait autour des gens, mais c'est l'histoire qu'il a racontée, et a attiré un tiers de ses étoiles. Ces étoiles étaient la postérité d'Abraham. Abraham a dit, ô Dieu d'Abraham, lève les yeux vers les cieux et compte les étoiles si tu le peux. Il dit, je n'ai aimé le peux pas. Il a dit, tu n'es aimé pourra pas non plus compter ta postérité, les étoiles. Donc, William Branham, le prophète de la parole, nous a dit que la queue n'était pas une longue queue mais l'histoire qu'il a racontée. Donc cela doit être dans les Écritures si cela vient d'un prophète de la parole. N'est-ce pas? Ésaïe 9.14 L'ancien est le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. 15 Ceux qui conduisent ce peuple l'égare, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Oh! J'aime ces symboles bibliques, parce que là où il y a un symbole dans cette Bible, il y a aussi une explication de ce qu'est ce symbole. 5. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. 6. La femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. 8. Mais Néhémie furent pas les plus forts. Et leur place Néhémie fut plus trouvée dans le ciel. D'accord. Alors nous étudions le tout début. La bataille qui a été menée au ciel. Et Satan a été précipité sur la terre. Il est parti afin de préparer le terrain pour la grande bataille de la parole de Dieu contre tout le royaume de l'Éden de Satan. Et devinez qui va gagner? 9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 10 Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 11 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 12 Esther, pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux? Malheur à la terre et à la mer, car le diable Esther descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. 13 Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, Christ. 14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, l'Église, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle était nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Maintenant, nous venons de lire deux autres symboles ici, l'aigle qui représente toujours les prophètes de Dieu, et les deux ailes qui représentent toujours le Nouveau et l'Ancien Testament. Comme l'aigle éveille sa couvée 15 août 59 p. 20 et puis son œil Esther si vif. S'il allait aussi haut et que Néhémie pouvait pas voir quand il était là-haut, l'altitude qu'il peut atteindre Néhémie lui ferait aucun bien. Mais il peut voir plus loin que n'importe quel autre oiseau. Par conséquent, Dieu a comparé ses prophètes aux aigles. Plus haut vous allez, plus loin vous pouvez voir. Et le prophète s'élève dans une sphère pour aller si haut, jusqu'à ce qu'il voit les choses à venir, puis revient et avertit le peuple. Là encore, l'aigle est également équipé de deux grandes ailes puissantes. Et les plumes, vous Néhémie pourriez pas les retirer même avec une paire de pinces. Oh, ils doivent être serrés, sinon quand ils montent dans cette altitude et ces tempêtes, elles sortiraient, et elles tomberaient. Il a donc deux ailes. Et je vais comparer ces deux ailes au Nouveau et à l'Ancien Testament que l'aigle Jéhovah déploie devant nous. L'aigle dans sa couvée 5 juillet 57 p. 9 Puis nous découvrons encore que l'aigle avait deux grandes ailes. Et ces ailes étaient pour la délivrance. Et elles signifiaient aussi le Nouveau et l'Ancien Testament. Et puis nous découvrons encore que l'aigle pouvait s'élever plus haut dans le ciel que n'importe quel autre oiseau. Vous les avez souvent entendu parler de l'œil du faucon? C'est Esther, un amateur, comparé à l'aigle. Oh, il Néhémie ne peut pas voir la moitié de la distance de l'aigle. Et l'aigle va si haut dans les airs, au point qu'ils doivent avoir une certaine constitution. Aucun autre oiseau Néhémie pourrait jamais le suivre. Si le faucon osait essayer de suivre l'aigle, il périrait dans les airs. Par conséquent, l'aigle Esther un produit manufacturé d'une façon spéciale, afin qu'il puisse aller très haut. Dieu a comparé ses prophètes à des aigles. Et bien sûr, dans Malachi 4, Dieu a dit qu'il avait dit, le soleil de la justice viendrait avec la guérison dans ses ailes. Ce que les ailes nous disent encore, c'est Esther qui vient avec le Nouveau et l'Ancien Testament. Dans son sermon Une seule voix pourvue par Dieu 31 juillet 63 p. 22 Frères Branham nous ramène au tout début avant que Satan Néhémie vienne sur la terre pour montrer qu'il a utilisé les mêmes tactiques au ciel. Je vais dire quelque chose ici. Peut-être que je Néhémie ne devrais pas le dire. Mais cependant je crois que je devrais le dire. Si vous avez remarqué, Lucifer fait exactement la même chose aujourd'hui qu'il a faite au commencement. Vous voyez? Lucifer, au commencement, voulait se bâtir un royaume plus grand et plus beau que le royaume de Michel, Christ. Il veut. C'était son ambition de réaliser quelque chose comme ça. Et par quoi a-t-il pu le faire? Il prit les anges déchus qui avaient perdu leur première position. Il lui a fallu ça pour le faire. Et aujourd'hui, Lucifer est à rentrer dans l'église, et à enlever la parole, et à injecter des dénominations, et il est en train de bâtir une église, le mouvement écuménique qui se passe maintenant, afin d'unir tous les protestants ensemble, et complètement entrer dans le catholicisme. Et ce pape qu'ils ont fait entrer maintenant, pour faire la même chose, exactement ce que l'Écriture a dit qu'il ferait. Et par quoi fait-il cela? Il le fait par les hommes de ces grands mouvements écuméniques, qui n'aiment ni connaissent pas Dieu, et beaucoup d'entre eux sont dans le pentecôtisme, parce qu'ils font de même. Qu'est-ce que c'est-ce? Il le fait avec des anges déchus, des luthériens déchus, des méthodistes déchus, des pentecôtistes déchus, qui ont perdu leur position d'origine de la parole de Dieu, et il revient directement pour faire un grand mouvement écuménique. Des messagers déchus. Des messagers qui autrefois sont restés avec la parole, mais qui ont vendu leur droit de naissance et se sont joints au monde. C'est la même chose dans les derniers jours. Et Lucifer réalise aujourd'hui, par des hommes avec ses esprits en eux, ce qu'il a fait avec les anges au commencement, des anges déchus qui n'ont pas gardé leur première position d'obéir à Dieu. Et il fait la même chose aujourd'hui. Nous voyons donc que le modèle a été établi dès avant les fondations du monde. Satan a son modèle et Dieu a le sien. En fait, chaque vie de semence a un modèle, et doit respecter son modèle, si elle provient de la semence originelle. Car la loi de la vie dans Genèse 1.11, que chaque semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature. La vie dans la semence doit manifester les attributs et les caractéristiques de la vie de la semence. Par conséquent, la vie dans la semence doit manifester quelle vie elle est. Vous les reconnaîtrez leurs fruits. Matthieu 7.20. L'une des leçons les plus grandes et les plus simples que Jésus nous a enseignées. Et si vous étudiez simplement le modèle de la vie de la semence, vous serez en mesure d'identifier le genre de vie que les hommes manifestent. De son sermon Christ Esther le mystère 28 juillet 63 p. 256 remarqué, Lucifer dans les derniers jours fait comme il l'a fait au début. Qu'a fait Lucifer? La première chose que Lucifer a faite pour séparer la communion de Dieu et de l'homme, il voulait lui bâtir un royaume uni d'une plus grande splendeur et apparemment plus cultivé, un plus grand royaume que celui de Michel, que celui de Christ. Vous avez compris? Maintenant, si vous l'avez manqué, levez simplement la main et je vais le redire. Vous voyez? Voyez? Lucifer au commencement, son but, dans son cœur était d'atteindre une chose plus brillante et plus grande au ciel que Christ possédait. Est-ce vrai? Apparemment. Par quelque chose de plus cultivé, de plus beau, de plus de splendeur que le royaume de Christ. Pensez-vous que nous aurons des automobiles dans le millénium et des avions? Voyez? Vous voyez ce que fait Lucifer? La plus grande bataille jamais livrée 11 mars 62 p. 44 Cette grande première bataille, qui n'a jamais été livrée commence au ciel lorsque Michel et ses anges se sont battus contre Lucifer et ses anges. La première bataille était au ciel, donc le péché Néhémi trouve pas son origine sur la terre, il trouve son origine au ciel. Et puis il a été précipité du ciel, précipité du ciel sur la terre et il est tombé sur les êtres humains. Ensuite, la bataille des anges devint des batailles humaines. Et Satan vient pour détruire la création de Dieu. Ce que Dieu avait créé pour lui-même, il était, Satan, venu pour détruire cela. Voilà ce qui était son but, c'était de détruire cela. Alors la bataille commence ici sur terre et commence en nous. Et dès lors, elle fait rage. Et dans son sermon, que votre lumière brille ainsi devant les hommes 3 septembre 61 p. 59 quand Jésus viendra. Quel genre de classe de personnes devait-il avoir? Des pécheurs sans instruction? Des pécheurs? Pierre? L'apôtre? Le grand saint? À qui l'on avait donné les clés des cieux? Néhémie pouvait même pas signer son propre nom. Il puait le poisson. L'odeur du vieux poisson. Il était censé porter le vieux tablier gras. Jésus a pris cette classe d'homme. Aujourd'hui, il le chasserait de l'église. S'il entrait, n'est-ce pas pour adorer? Vous voyez? Les gens recherchent la classe sociale. Et saviez-vous que le diable vit dans la classe sociale? Savez-vous ce qui a causé la première bataille au ciel? C'est-à-dire quand Lucifer a mis en place une plus haute classe de gens, il a obtenu une meilleure classe d'anges? Pensait-il? Grande? Un plus grand royaume? Un royaume plus brillant et plus radieux que celui de Michel. Et il a été expulsé du ciel. Vous voyez d'où vient la classe? Restez à l'écart de la classe. Les affamés Néhémie veulent pas de classe. Les affamés veulent de la nourriture. Oui monsieur. Et encore une fois dans son sermon le sceau de Dieu 16 février 61 p. 21 frère Branham dit, maintenant, nous découvrons que comme Caïn a écouté l'ennemi, alors que Esther il passait, il est devenu le premier meurtrier. Il est devenu le premier à éprouver de la jalousie sur terre. Dites-moi où cette lignée pure de Dieu a Adam. C'est Esther le seul lien. Adam était le fils de Dieu. La Bible l'a dit. Alors d'où vient cette jalousie? D'où vient ce meurtrier? D'où vient tout ce genre d'esprit? D'Adam? Ce n'était pas possible. Ça venait de Satan. C'était exactement de là où cela est revenu. Maintenant, nous découvrons qu'il était le premier meurtrier. Et il a été le premier à éprouver de la jalousie. Et Lucifer est devenu jaloux de Michel. Il a ramené cela sur la terre et l'a transféré dans l'homme. Et Satan, Caïn, en acceptant ce mal acquis, a pris la première marque. Dieu l'a marqué. Personne n'aimait devait le tuer. Laissez-le tranquille. Mais souvenez-vous, dès qu'il l'a marqué, il est sorti de la présence de Dieu. Accrochez-vous à cela maintenant. Accrochez-vous à quoi? Oh! Néhémie manquait pas ce qu'il vient de dire. Caïn est sorti de la présence. Il est sorti de la parousia de Dieu. Et tous ces gens, qui disent que la parousia de Christ est une fausse doctrine, tirent leur inspiration de Caïn pour dire cela. Vous les reconnaîtrez leurs fruits. Vous dites, frère Branham n'a pas utilisé ce mot. Mais Jésus l'a utilisé, et Paul l'a utilisé, et Pierre l'a utilisé, et Jean l'a utilisé et Jacques l'a utilisé. Et Paul a dit que si vous n'aimez prêchez pas ce que je prêche, vous êtes maudit d'une malédiction. Frère Branham l'appelait simplement par son équivalent anglais, présence, présence, parce qu'il parlait à des anglophones. Il a dit que l'apparition Esther avant la venue, et il apparaît maintenant. Esther sa présence. Oh! Nous n'avons pas le temps d'en donner une véritable étude approfondie parce que, oh! Frère, nous pourrions creuser cela ici pendant 6 mois, vous voyez? Et Néhémie jamais en touché la surface. Vous voyez? Et je peux dire amen à cela. Parce que nous pouvons prendre 2 à 3 ans juste pour couvrir l'un des sermons de frère Branham en le ramenant aux Écritures, et en la passant en revue de la Genèse à l'Apocalypse. 266 sermons et 3-1 million sur la parole par Esther la semence originelle. Si nous avons des juifs qui suivent ce sermon, qui sont les juifs du temps de la fin, qui peuvent passer par la période de tribulation, il a fallu 42 mois pour étudier ce sermon, et cessèrent le nombre de mois que dure la tribulation. Je vous suggère de prendre un sermon par semaine et cela peut vous aider dans les temps difficiles. La réalité infaillible de Dieu 26 juin 60 p. 82 vous vous souvenez? Le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel, quand Lucifer le prit et fit de lui. Il a dit, « Je veux une dénomination, faire une grande chose. » Il est allé dans le nord du pays et a mis en place une chose plus grande que Michel. Et il a été expulsé du ciel. Et ses anges là-bas, leurs esprits. Quand? Sester pourquoi, quand cette tente terrestre sera dissous? Nous en avons déjà inquiétant. Vous voyez? Et Sester pourquoi notre nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Tout ce que le Père m'a donné, viendra à moi. Question et réponse COD 28 juin 59 soir P, 44 maintenant. Alors que je viens de me baser sur cela, Lucifer, au ciel, a essayé de s'exalter et même d'être juste un peu plus haut que son patron. Et il trahit Michel, et se fit un grand royaume dans le nord, et descendit. Maintenant, et lui et ses anges ont été chassés. La personne a posé la question de l'Apocalypse. Sester dans Apocalypse 12. Sur l'île de Patmos. Mais maintenant, remarquez cela ici au 12e verset, et regardez comment il s'installe dans le royaume des hommes. Combien de personnes ici comprennent que le diable contrôle chaque nation sous le ciel? Le diable contrôle les États-Unis. Le diable installe le gouvernement des États-Unis. Le diable installe le gouvernement de l'Allemagne. Il installe le gouvernement de chaque nation sous le ciel. Le diable contrôle chaque nation. La Bible le dit. Lisez Matthieu le chapitre 4. Quand Satan a emmené Jésus au sommet de la montagne, et lui a montré les royaumes du monde, et a affirmé qu'ils lui appartenaient, et a dit, « Je te les donnerai si tu m'adores. » Jésus n'a jamais dit, « Tu as menti, Satan. » Il savait qu'il lui appartenait. Mais dans le livre de l'Apocalypse, il a dit, « Réjouissez-vous, vous les cieux et vous la terre, car les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Et il régnera sur la terre. » Jésus savait qu'au cours du millénium, tous les gouvernements et tous les royaumes seront brisés, et il sera Dieu et souverain sur chacun d'eux. Il savait qu'il hériterait de tout cela. Sester pourquoi il a dit à Satan, « Arrière de moi, Satan !» Car il savait ce qu'il devait faire. Et comme Sester le moment où Satan met en place son Éden, il vient engendrer cette adoration de Satan par l'instrument de l'Église, par laquelle, en faisant en sorte que les Églises s'éloignent de la parole révélée de Dieu, il peut maintenant les amener à l'adorer. L'apôtre Paul a dénoncé cela. William Branham a donné le dernier avertissement et si nous voyons cela être exposé devant nos yeux en ce jour, alors que l'Éden de Satan est à rentrer en pleine floraison et en pleine manifestation. Maintenant, je pourrais m'arrêter là. Mais nous voyons qu'il porte une accusation contre les gens qui prétendent adorer Dieu mais qui adorent en fait Satan et Néhémie le savent même pas. Et cela doit être Laodicée, qui est aveugle et qui Néhémie le sait pas. Et cela signifie que ce sont des gens ignorants. Des insensés. William Branham nous dit l'ainsi dit le Seigneur en tant que prophète confirmé de Dieu. La personne adorée en ce jour, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Puis, il nous dit que les gens ignorants fait qu'ils adorent Satan. Et l'apôtre Paul nous a dit que c'était une ignorance volontaire. De Pierre 3.3-7 sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est-elle la promesse de sa parousia? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, En effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Maintenant, nous entendons beaucoup de blogueurs sur Internet qui veulent vous montrer que les élitistes sont des adorateurs de Satan. Et nous n'y pouvons même pas amener les soi-disant chrétiens tiennes d'aujourd'hui à le croire. Cependant, il y a tellement de preuves aujourd'hui, qu'il s'agisse des déclarations qu'ils ont faites eux-mêmes, des photos que les gens ont prises, ou même de preuves vidéo. Mais cependant, les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui Néhémie veulent toujours pas croire que quiconque puisse adorer Satan, et encore moins les dirigeants du gouvernement. Mais Satan contrôle tous les pays, il l'a dit à Jésus. Nous vous le lisons, alors réveillez-vous avant qu'il Néhémie soit trop tard. Mais le prophète confirmé de Dieu de cet âge a dit que les soi-disant adorateurs de Dieu adorent en fait Satan et que Néhémie le savent même pas. Et Néhémie parle pas des dirigeants politiques ici, il parle des dirigeants de l'Église et des fidèles de l'Église. Écoutez ce qu'il dit. Mais c'est Esther Satan qui se fait passer pour l'Église, vous voyez? Pour l'Église. Ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'Église. Mais c'est Esther la façon dont Satan l'a fait. C'est Esther donc par l'Église qu'ils pensent qu'ils adorent Dieu alors qu'en réalité, par l'Église, ils adorent Satan. Permettez-moi de répéter cela pour que vous Néhémie continuiez pas à mal à qui comprendre cela. Il nous dit que la plupart des gens vont à l'Église en pensant qu'en faisant cela, ils adorent Dieu, mais Satan à travers l'Église a redirigé leur adoration loin de Dieu et vers lui-même. Ainsi, l'Église n'est que l'instrument par lequel les gens adorent Satan aujourd'hui. Maintenant, je sais que les gens vont dire, « Oh, ce n'est pas ce qu'il veut dire. » Et je voudrais juste vous poser la question, depuis quand Dieu vous a-t-il appelé à nous dire ce que le prophète de Dieu veut dire et ce qu'il n'aime et veut pas dire? Mais ce message est rempli de gens qui disent Néhémie dit que ce que le prophète dit. Et puis ils enseignent contrairement à ce que le prophète a enseigné. Il a dit que Satan se fait passer pour l'Église. Et remarquez que frère Branham l'a dit deux fois. Et il est normal de se répéter quand vous voulez que les gens sachent que vous pensez ce que vous dites. Et il a dit, ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers leur Église. Puis il dit, mais c'est la façon dont Satan l'a fait. Maintenant, ce Néhémie sont pas seulement les églises baptistes, méthodistes et pentecôtistes dont il parle. Il dit que les gens adorent Satan à travers leurs églises, pensant qu'ils adorent Dieu à travers leurs églises, mais adorent en fait Satan à travers leurs églises. Maintenant, comment est-ce possible? Quand les gens disent qu'ils croient en ce message du temps de la fin et qu'ils appellent leur église une église du message, et puis ils nient ce que le messager a enseigné, ils utilisent l'église pour éloigner les gens du message du temps de la fin. Ils placent les credos et les dogmes de leurs églises et de leurs pasteurs au-dessus de la parole de Dieu, et quand ils font cela, ils adorent Satan à travers ces credos anti-parole. Mais tout le temps, dans leur esprit, ils pensent qu'ils adorent Dieu. Mais ils adorent le Dieu de cet âge mauvais. Maintenant, l'apôtre Paul nous en dit la raison dans 2 Corinthiens 2.4 si notre évangile est encore voilé. Autrement dit, si l'Esther voilé, c'est Esther parce qu'il n'a aimé le comprennent pas. Et puis Paul dit, il est voilé pour ceux qui périssent. Ainsi l'évangile est voilé pour ceux qui sont perdus. Alors, qui pourrait-il être? Dans 1 Corinthiens 2, l'apôtre Paul nous identifie ces gens perdus qui Néhémie peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Il dit au verset 7 « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Donc, s'il est caché, alors qu'il le cache, Dieu le cache aux sages et aux intelligents, mais il le révèle aux bébés qui sont prêts à apprendre. Ce sont des paroles que Jésus lui-même a dites. Luc chapitre 10.21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Matthieu 11.25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Et l'apôtre Paul en a également fait écho dans 1 Corinthiens 1.19. Aussi Esther écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Et c'est Esther Dieu qui fait cela. Et l'apôtre Paul poursuit au verset 8 de 1 Corinthiens 2, « Sagesse qu'aucun des chefs de ce monde n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Le Seigneur de la doxa. Le Seigneur des opinions, des valeurs et des jugements de Dieu. » Ainsi, quand Jésus leur parlait, ils ont qualifié ses paroles d'hérésie. Il en est de même de la parousia de Christ et de la compréhension de la divinité, mais il leur disait constamment que ses paroles et ses doctrines n'étaient pas siennes, mais celles du Père qu'il avait envoyé. Jean 5.17. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Jean 5.19. Le Fils Néhémie peut rien faire de lui-même. Il Néhémie fait que ce qu'il veut faire au Père. Jean 5.30. Le Fils Néhémie peut rien faire de lui-même, selon ce qu'il voit le Père faire. Il agit. Jean 8.29. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean 10.18. Elle est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10.25. Les œuvres que je fais au nom de mon Père. Jean 10.32. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Jean 12.49. Le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jean 12.50. Je l'ai dit comme le Père me les a dites. Jean 14.31. J'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Maintenant, revenons à 1 Corinthiens et nous reprendrons au verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui n'est mis son point monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Par conséquent, si elles n'est mis sont même pas montées dans le cœur ni dans la compréhension de l'homme, alors comment vont-ils comprendre les choses de Dieu? Et il n'y a qu'une seule façon pour nous de comprendre les choses de Dieu, et Paul nous dit au verset 10, Dieu nous les a révélées par son esprit. Car l'esprit sont toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Par conséquent, si Dieu Néhémie nous les révèle pas, nous Néhémie connaîtrons jamais les choses de Dieu. C'est impossible. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit très clairement au verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne n'aime et connaît les choses de Dieu, si ce n'est à l'Esprit de Dieu. Par cela, il y a une chose qu'il dit très clairement, et c'est que personne n'aime et connaît les choses de Dieu. Et la seule façon de les connaître, c'est si Dieu nous les révèle par son Esprit. 12. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'apôtre Paul dit ici que pour pouvoir comprendre les choses de Dieu, nous devons recevoir l'Esprit de Dieu, parce que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, il nous dit qu'il est impossible de comprendre les choses de Dieu, ce qui inclut ce message. 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en comparant les choses spirituelles avec les spirituelles. Vous voyez, c'est là que j'entre en conflit avec mes frères qui prétendent croire le message. Comment pouvez-vous croire ce que vous n'y comprenez pas? Oh! Vous dites que vous n'avez pas besoin de le comprendre. Vous devez juste le croire. Cela peut être vrai si vous n'y croyez que jusqu'à ce que. Mais si vous avez atteint jusqu'à ce que et que vous n'y comprenez toujours pas, alors vous montrez que vous n'y croyez pas. Combattre pour la foi 20 février 55 soir 66 Jésus a dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Vous ne pouvez pas le comprendre. C'est une chose mystique et mythique jusqu'à ce que vous soyez né de nouveau. C'est là que la vie même de Dieu vient en vous. Éternelle, la vie éternelle, le Zoé, la propre vie de Dieu vient en vous. Et alors vous faites partie de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Et alors vous voyez comme Dieu voit. Vous croyez comme Dieu croit. La guérison divine, 19 décembre 54 matin 279 puis-je, à sa place ce matin, me lever et citer à cette génération, car si un homme naît de nouveau, il n'y peut comprendre ces choses, le royaume de Dieu, comme il l'a dit à Nicodème d'antan. Vous n'y pouvez pas le comprendre. Vous n'y le comprendrez jamais, jusqu'à ce que Dieu vienne dans votre cœur. Et vous serez une partie de lui, puis vous direz, oui, Seigneur, chaque parcelle de la parole est inspirée. J'en crois chaque bout. Je crois que c'est la vérité. Et me voici, Seigneur, pour marcher dans la lumière. Tant que vous êtes limitrophe, vous n'y pouvez pas le croire. Vous n'y pouvez pas le faire. Que le Seigneur vous aide ce matin à voir le surnaturel. Shalom PG 34 Les élus voient. Savent que s'estère toujours à travers chaque âge qu'ils le savent. Shalom 12 janvier 64 p. 22 Et les hommes, comment ils continueront dans leur credo, et serviront sous ces credos et ces choses. Et ce sont de braves gens. Ce sont des gens bien. Mais cependant, il semble qu'ils n'y peuvent pas comprendre. On dirait qu'ils n'y peuvent pas le saisir. Pourquoi? J'y retourne l'année suivante, et au lieu que ce soit meilleur, c'est pire. Entendre, reconnaître agir sur la parole 21 février 60 p. 18 Tout d'abord, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors le croyant l'entend, le reconnaît et agit en conséquence. L'homme charnel entendra le son de celui-ci, mais jamais. Entendre signifie comprendre cela. Regardez, c'est regarder quelque chose, mais le voir, c'est le comprendre. Si un homme n'est pas de nouveau, il n'est peut ni voir ni comprendre le royaume de Dieu. La semence n'héritera pas avec la balle 29 avril 65 petit déjeuner p. 25 maintenant. Si vous prenez Saint Jean 5.24. Écoutez ceci, celui qui entend ma parole. Et croit en celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Maintenant. En quoi cela serait-il si différent de beaucoup de nos théologies? Maintenant. Je pourrais sortir ici et dire à un ivrogne, croyez-vous? Bien sûr. Un homme avec la femme d'un autre homme? Croyez-vous? Bien sûr. Étiez-vous à la réunion hier soir pour entendre la parole? Bien sûr. Vous la croyez? Bien sûr. Il dit juste cela. Mais l'interprétation originelle de ce mot, c'est celui qui comprend ma parole. Et qui croira en celui qui m'a envoyé. Celui qui comprend, c'est celui à qui on l'a fait connaître. Jésus a dit, personne n'est peut venir à moi si mon Père n'est l'a pas attiré. et tous ceux que mon Père m'a donnés viendront. Mes brebis, mes colombes, écoute ma voix. Ils ne m'y suivront pas un étranger. Et qu'est-ce que la voix de Dieu? C'est-ce la parole de Dieu? Qu'est-ce que la voix d'un homme, si ce n'est sa parole? C'est-ce la parole de Dieu? Ils entendront la parole de Dieu. Maintenant, revenons à 2 Corinthiens 2.14. Mais l'homme animal, l'homme sans le baptême du Saint-Esprit, n'y reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il n'y peut les connaître, il lui est impossible de les connaître et de les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. 15. L'homme spirituel, celui qui est rempli d'esprit, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Maintenant, pour revenir à ce que l'apôtre Paul disait dans notre texte de ce matin, dans 2 Corinthiens 4.4, en qui le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui n'y croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, n'y brille sur eux. Il a appelé Satan le Dieu de ce monde. Le mot Dieu signifie un objet d'adoration. Par conséquent, ce que l'apôtre Paul enseigne, c'est que le Dieu de ce monde, la personne adorée de ce monde, a aveuglé l'esprit de ceux qui n'y croient pas. Écoutez, vous n'y pouvez pas dire aux baptistes, aux méthodistes ou aux pentecôtistes qu'ils n'adorent pas Dieu, mais un prophète de Dieu confirmé nous a dit qu'ils n'y l'adorent pas. Il a dit qu'ils adoraient Satan et n'y le savaient même pas, en pensant adorer Dieu parce qu'ils sont complètement ignorants de la parole de Dieu. Vous n'y pouvez pas dire à ces gens qu'ils n'y croient pas la Bible, parce qu'ils vous diront qu'ils y croient. Et quand vous ou votre église en venez à une écriture et que vous niez cette écriture par vos actions ou vos credos, alors vous adorez Satan et vous n'y le savez même pas. Alors que l'apôtre Paul nous a donné l'ordre de n'y dire que ce qu'il a dit, et de n'enseigner que ce qu'il a enseigné, sinon vous êtes maudits. Et il a dit, d'enseigner quelque chose de différent de ce qu'il a enseigné, vous êtes maudits, et vous dites, eh bien, en ce jour, cela ne signifie pas ça. Alors vous êtes un adorateur de Satan au lieu de Dieu qui est la parole. Et vous êtes trop ignorant pour le savoir. Et l'ignorance n'est pas une excuse. Et aujourd'hui, ils sont volontairement ignorants. Niez-vous aujourd'hui ce que Dieu a placé dans l'Église pour son perfectionnement? Vous adorez Satan et vous n'aimez le savez pas. Jésus les appelait des conducteurs aveugles conduisant des aveugles. Traitez-vous les parousias de Christ de fausses doctrines, même si Jésus l'a enseigné en premier, puis l'apôtre Paul, et l'apôtre Pierre, et les apôtres Jacques et Jean, et tous ceux qui ont entendu la voix du prophète de Dieu au temps de la fin, nous devrions connaître cette parole. Mais ils sont encore si ignorants. Si vous prenez les 23 versets de l'Écriture où Jésus a parlé de la parousia, et ce dont Paul a parlé, et ce dont Pierre, Jacques et Jean ont tous parlé, vous finirez avec 84 signes événements qui s'accompliront au cours de cette période appelée la parousia et 79 d'entre eux se sont déjà accomplis. Et la plupart des gens dans ce message n'en ont aucune idée parce qu'ils écoutent des pasteurs qui n'y sont pas appelés, mais qui ont simplement un penchant pour la musique, ou qui ont sur eux un esprit de leadership et d'organisation. Et si vous croyez toujours que Jésus est un avec Dieu comme votre don est un, vous niez ce que le prophète confirmé de Dieu a enseigné, ce que Jésus et Paul et Pierre et Jacques et Jean ont tous enseigné. Et cela signifie que vous êtes des ignorants. Et vous appelez ce que le Fils de Dieu a enseigné, et ce que ses apôtres ont enseigné, les vérités de l'Évangile, et vous qualifiez cela de fausse doctrine. Mon ami, vous adorez Satan et vous n'aimez le savez même pas. Et peu m'importe si vous ignorez que Jésus, Paul, Pierre, Jacques et Jean ont prêché cela. Ce n'est pas une excuse. Vous le niez en niant sa parole. Vous dites, eh bien, le prophète n'a jamais utilisé ce mot. Le prophète n'a jamais parlé grec ou hébreu non plus. Alors est-ce que cela nie la Bible pour autant? Allez-vous jeter votre Bible, parce que William Branham n'a jamais utilisé tous les mots grecs et hébreux? Les gens peuvent être tellement ignorants. Voilà tout. Et l'ignorance n'est pas une excuse. Une sœur a dit à frère Vell, « Je n'ai mis comprend pas. Donc je n'ai mis serait pas tenu responsable. » Et il a dit « Tu as tout faux ma sœur. Tu seras tenu responsable. Donc tu feras mieux de comprendre. » L'ignorance n'est pas une excuse pour l'incrédulité parce que l'ignorance, c'est l'incrédulité. L'apôtre Paul a dit, étudie pour te montrer approuvé. Un ouvrier qui n'a pas à avoir honte. De Timothée 2.15, si vous cherchez le mot parousia en grec, il signifie simplement présence. Et William Branham a prononcé le mot présence en se référant à la présence du Seigneur Jésus-Christ plus de 4400 fois. Et il a utilisé des mots tels que l'apparition avant la venue. Et il est ici et beaucoup d'autres expressions pour déclarer la présence de Jésus-Christ plus de 8700 fois, soit une moyenne de 7 fois par sermon. Et les gens n'arrivent pas à trouver cela dans leur Bible, car ils n'ont certainement même pas essayé. Vous croyez en l'enseignement unitaire ou trinitaire? Vous adorez Satan et vous n'aimez le savez pas. Vous croyez en deux seigneurs au lieu d'un seul seigneur malgré que frère Vell a dit que la doctrine des deux seigneurs est une erreur et Néhémie devrait pas être prêche. Et vous continuez à la prêcher. Alors que Moïse a enseigné un seul seigneur. Et que Jésus a enseigné un seul seigneur. Et que Paul a enseigné un seul seigneur. Et que William Branham a enseigné un seul seigneur. Si vous enseignez toujours la doctrine de deux seigneurs, vous enseignez l'hérésie et le contraire de ce que Paul, Jésus, Moïse, Pierre, Jacques et Jean ont enseigné. Donc, vous adorez Satan, pensant que vous adorez Dieu et vous êtes tellement tiède, aveugle et ignorant que vous n'aimez le savez même pas. Quand vous niez que Jean 14.12, c'est pour le croyant et que vous faites en sorte que ce soit pour un seul homme, soit vous ignorez ce que vous dites, soit vous adorez Satan et vous n'aimez le savez même pas. Quand vous avez un prophète confirmé qui a enseigné que Jean 14.12 est pour chaque croyant qui a le Saint-Esprit, mais que vous le niez, alors vous êtes volontairement ignorant et un adorateur de Satan et vous n'aimez le savez même pas. Le prophète confirmé de Dieu a dit dans son sermon le fidèle Abraham 2.13.6.1p. 53 maintenant, l'Église qui professe être une Église chrétienne devra avoir le même esprit qui était en Jésus-Christ. Car à la résurrection de l'Église, Christ et son épouse se réuniront et s'uniront. Les écrits et les promesses de Dieu s'accompliront à ce moment-là. Donc, il ne peut pas avoir réunion à moins que le même esprit qui était en Christ Néhémie soit en vous et en moi. Et puis si ce même esprit est à l'intérieur, il fera les mêmes œuvres, et vivra le même genre de vie séparé, et fera les œuvres qu'il a faites. La Bible l'a dit, depuis la Genèse, le confirme. De même que William Branham, le prophète confirmé de Dieu, dit clairement que Jean 14.12 est pour chaque croyant comme nous le voyons dans les questions et réponses 28 juin 59 soir moins 172, 88b. Frère Branham, est ce que n'importe quel homme peut faire les œuvres de Christ à moins qu'il n'ait mis soit Christ? C'est ce que c'est à moins qu'il n'ait mis soit Christ? Bien sûr. Prenons Saint Jean, juste un instant. Saint Jean le 14e chapitre et je veux que vous regardiez ceci. Maintenant, si vous pouvez le prendre rapidement. Saint Jean 14.12. Je crois que c'est ça. Nous allons le faire rapidement. Et regardez ce que Jésus en a dit. Très bien. En vérité, je vous le dis, celui, qui que ce soit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais il les fera aussi. Tout homme, l'homme lui-même né ne peut pas être Christ, mais les œuvres de Christ suivront chaque croyant. Vous voyez? Il fera les œuvres de Christ en n'importe quel homme. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera. Non pas, je ferai, il fera. Il fera. Non pas, je. Mais il croit en moi et a confessé sa foi en moi et il est mort à lui-même et mon esprit demeure en lui et il devient une partie de moi. Maintenant, cela ne fait pas de lui Christ. Cela fait de lui une partie de Christ avec le reste de l'Église. Très bien. Il n'estère pas Christ, parce que ce serait l'antéchrist, voyez-vous. Il enlèverait à Christ. Mais il peut être, faire les œuvres de Christ, n'importe quel croyant. D'accord. Donc, vous voyez, tout credo qui dit autre chose que ce que dit la parole de Dieu, c'est placer les paroles de l'homme au-dessus de la parole de Dieu, et donc vous êtes sous l'influence de Satan. Ok, je pense que j'ai battu assez de démons d'incrédulité ce matin. Je pense juste que nous devrions clore maintenant, et reprendre la semaine prochaine là où nous venons de nous arrêter. Il me restait encore une heure, mais je n'ai mis veut pas vous épuiser. Et pour ceux qui citent Matthieu 7.1 et disent, Néhémie jugeait point, afin que vous Néhémie soyez point jugés. Mais lisons tout ce que Jésus a dit. Deux car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre critère est cette parole et cette parole seule. Et nous devrons tous nous tenir devant le trône du jugement de Christ, et avant qu'il n'ait mis soit trop tard, nous devrions donc nous demander, est-ce ce que je crois ce que dit la parole de Dieu ou ce que l'homme en dit? Car l'apôtre Paul dit dans Corinthiens 11.31 si nous nous jugions nous-mêmes, nous n'y serions pas jugés. Et comment jugeons-nous? Par la parole de Dieu. Jésus nous dit dans Jean 12.47-49 si quelqu'un entend mes paroles et n'y les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. 48 Celui qui me rejette et qui n'y reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. 49 Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et comment viendra ce jugement? À Corinthiens 6.1 de Néhémie, savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Le prophète de Dieu nous a dit dans son sermon, conduit par l'Esprit de Dieu 23 juillet 56 p. 84 maintenant, souvenez-vous que votre sang est devant moi, je le place devant Christ. En tant que ministre, je suis obligé de m'en tenir à la parole. Dieu me jugera si je n'ai prêche pas la vérité. Et puis si je prêche la vérité alors c'est sur vos mains. Il a dit que si vous voyez l'ennemi venir et que vous n'avertissiez pas, alors je redemanderai le sang qui est sur votre main. Mais si vous avertissez, alors c'est sur votre propre tête. Et dans son sermon, le discernement de l'esprit 60-0308p1, il dit, et nous sommes ici ce matin, Père, réunis dans aucun autre but que de connaître et d'étudier pour connaître, plutôt, la volonté de Dieu et ce que nous devons faire pour rendre Christ réel pour les gens de cette génération. Sachant sûrement qu'au jour du jugement, nous serons mis face à face avec cette génération. Et, en tant que ministre, nous serons des juges. Et les gens à qui nous avons parlé, et leur attitude envers la parole que nous leur avons apportée, détermineront leur destination éternelle. Par conséquent, Seigneur, en ce jour-là, nous serions des juges en faveur ou en défaveur de la génération à laquelle nous avons prêché. Alors, avec cela à l'esprit, inclinons maintenant la tête en nous adressant au Père de gloire et fermons les yeux, et ouvrons nos cœurs à Dieu dans un mot de prière. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, janvier 2023. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.